Le président est coupable.
Nous voulons la destitution du président Viscara, car les enregistrements démontrent qu'il a menti au pays et conspiré contre la justice.
D'autres parlementaires, à l'image de Mirta Vázquez du parti de gauche Frente Amplio, ont voté contre l'examen de la motion de censure en invoquant l'enquête en cours sur les enregistrements audio incriminant le chef de l'État.
Comment est-ce possible qu'avant la fin de l'enquête, des preuves comme les enregistrements soient diffusées sans qu'on ait vérifié leur véracité ? C'est irresponsable.
Radio G. www.radio-g.fr.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire, dont nous
amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5 intitulé « Où bourreaux et victimes en mêlent leur récit »,
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, je vous ai choisi un extrait du chapitre 9 intitulé «
Assise près de l'incubateur ». Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
En Pays de Loire. Cette Loire, dernier fleuve sauvage d'Europe, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, reine des fleuves, qui fend en deux la terre d'Anjou et marque de sa puissance impétueuse la frontière climatique entre le nord et le sud. Dans l'anthologie que nous allons vous lire, faite de pièces et de morceaux assemblés, nous avons essayé de donner à l'auditeur une sorte de tableau. Tableau que nous voulons ancrer dans l'époque contemporaine. Une Loire vivante, tournée vers l'avenir, même si ce fleuve a depuis des temps immémoriaux ses inconditionnels, illustres ou plus confidentiels. Voici la Loire avec ses clichés qui en font une terre de tradition attachante.
Le fleuve à la vitesse d'un cheval au galop. En 1856, où en plein mois de juin, il n'y avait plus une goutte d'eau dans les fossés, la Loire, grossie sans doute par des pluies violentes dans le centre et par la crue soudaine d'un de ses affluents, creva la levée de la Chapelle-sur-Loire à la frontière de la Touraine et de l'Anjou. En quelques heures, le flot se précipitant par la brèche, un renard comme on dit, et accourant, dit-on, à la vitesse d'un cheval au galop, recouvrit la vallée sur une longueur de 50 km, une largeur de 10 et une hauteur de 3 mètres et alla s'engouffrer à bout de course dans les ardoisières de Trélazé. L'empereur Napoléon III vint visiter les sinistrés. Ma grand-mère, qui vivait dans la maison du bas pays de Mazé, où je suis née, m'a souvent raconté sa fuite éperdue, en pleine nuit, comme tous les habitants de la vallée, avec son père et poussant leur couche devant eux, devant l'invasion de la grande eau dévastatrice. Ce cataclysme ne se reproduisit jamais. car la levée, renforcée, a depuis toujours tenu bon. Mais j'ai connu moi-même la grande eau de 1910, de 1927, de 1936, de 1960 et 1961, et la grêle du 13 juillet 1923. Émile Joulin, billet du paysan de la Loire. Le muscadet. Sur les coteaux de la Sèvre mûrit le muscadet. Le muscadet, ce vin au nom guilloret et cascadeur, est la plus célèbre production du pays nantais. Il en est comme le symbole. La Société des Nantais de Paris s'est baptisée elle-même le muscadet. Il y a une cinquantaine d'années, sa renommée ne dépassait guère la zone de débit de Nantes, Saint-Nazaire, Brest et Lorient, ville où il n'aurait pas été séant de traiter une affaire, petite ou grande, sans vider une fraternelle bouteille de muscadet. Le muscadet n'est parfait que dans quelques communes des cantons entre Loire et Sèvres. Le canton de Valette, on appelait naguère le muscadet le vin de Valette. Les cantons de Clisson, d'Aigrefeuille, de Vertou, du Loroux. Sur la rive droite du fleuve, exceptionnellement, il est excellent dans deux ou trois communes autour d'Ancenis. J'ai toujours pensé que les vignerons finissent par acquérir défauts et qualités des crus qu'ils cultivent et que, par une sorte de mimétisme, les uns et les autres arrivent à se ressembler. Tel vin épais et coloré doit fleurir le visage de son viticulteur, à condition évidemment qu'il en use. Tel autre, plat et sans force, laisse à son vigneron des traits sans couleur. Un bourguignon ne ressemble pas plus à un angevin que leur vin ne se ressemble. Émile Gabory, Le Pays Nantais.
Et les vins d'Anjou. Au 9e chapitre de Gargantua, cette Bible de l'ironie, notre bon maître François Rabelais dit leur fait aux illettrés qui se mêlent d'écrire et proclament qu'on leur devrait attacher une queue de renard au col et leur faire un masque d'une bouse de vache. C'est proprement le sort que les Angevins souhaitent au failli Merligaudier qui emploie cette formule inepte et saugrenue. Le petit vin d'Anjou, les fâcheux aliborons. Leur stupidité est de celle de ces tristes cuistres qui traitaient la fontaine de poète secondaire. Nos vins d'Anjou sont parmi les plus nobles qu'il y ait au monde. Ils appartiennent à l'histoire de France. En eux se résume toute la douceur angevine, cette douceur qui ne dégénère jamais en fadeur. Cette douceur qui n'exclut point la force, puisqu'elle s'est alliée pendant la guerre à l'héroïsme des gars du 9e corps, et qui n'empêcha point nos ancêtres d'être rois de Jérusalem, de Provence, de Naples et autres lieux, voire même rois d'Angleterre avec les Plantagenets. C'est même à cette illustre dynastie que remonte la gloire de nos vins. Car ils les importèrent en Grande-Bretagne où les francs buveurs leur firent un enthousiaste accueil. Ils trouvèrent la même faveur à la cour des Valois et eurent l'honneur insigne d'être chantés par les poètes de la Pléiade. Plus tard, la Compagnie des Indes les exporta en quantité gastronomique. Cela dit, pour ceux qui prétendent que nos vins ne voyagent pas. Nos amis belges leur ont toujours rendu hommage. Et faut-il rappeler que pendant la guerre, les Américains installés sur les bords de la Loire leur firent largement honneur? Entre parenthèses, il est amusant de constater que de grands pays qui ne produisent point de vin n'en produisent pas moins d'excellents dégustateurs. « L'on n'aime que ce qui vous manque », disait un vieux philosophe grec. Et puisque tant de peuples amis vont venir ces temps-ci nous rendre visite, qu'ils nous laissent leur dire que le meilleur, le plus sûr et le plus agréable moyen de connaître nos vins, c'est de venir les boire sur place, dans ces jolies auberges si claires, si propres et si avenantes qui bordent le noble fleuve de Loire. Quelques fins dégustateurs savent, mais trop d'autres buveurs ne le savent point, que notre pays d'Anjou produit de grands vins blancs, justement renommés, et des vins rouges, beaucoup moins connus, parce qu'ils sont très rares et qu'on ne peut guère les boire que sur place. Kurnonski, la foire au vin d'Anjou de 1937.
La boule de fort. La société, quel beau nom! C'était aussi pour l'homme le double, l'annexe de la maison familiale. En voici une. Société de la gare, tiercée. Il y a des fleurs sur la fenêtre et au pied du mur, des rideaux à la chambre où on joue aux cartes, où l'on boit un verre entre chaque coup de boule, et la partie finie. Reconnaissons cependant que les hommes en abusaient beaucoup en ces vieux temps-là et ont tendance encore à se distraire entre eux, à laisser la femme à la maison. Il y a progrès cependant de nos jours. Les dames, on voit au chapitre. Elles se groupent sur les passerelles, s'intéressent au jeu, comme sur les stades. Elles descendent même dans le jeu de plus en plus. Il y a de jeunes championnes de boule de fort et c'est tant mieux. La boule de fort n'est pas un jeu de force. Elle s'apparenterait plutôt au si délicat et si noble jeu de billard. Elle est essentiellement féminine et toute de douceur, comme d'esprit, comme la grâce de notre province, celle de Du Bellay, du roi René d'Anjou, de Jeanne de Laval, des filles de la Loire. Émile Joulin, la boule de fort. Thank you.
nous évoquerons la Loire mise à l'honneur par nos grands écrivains qui y sont nés, s'y sont promenés, s'y sont retirés ou y sont morts.
Jour de lessive à Saint-Florent. Le film « La Belle et la Bête » où les scènes bourgeoises sont tellement plus singulières, plus attirantes que les scènes féeriques, et la séquence où les sœurs de Belle étendent les draps, tout à coup rappelle à moi du fond de mon enfance la lessive. Espèce d'état généraux domestique où deux fois par an, à côté de notre bonne, de celle de mon grand-père et de ma tante, se rassemblaient le banc et l'arrière-banc des laveuses. La mère Piton, la mère Huchon, la mère Oro, solide commère en coiffe à la langue affilée, qui établissaient pour deux jours au bord de la Loire leur boîte, garnie de paille, où elles lavaient à genoux, meurtrissant le linge sur une planche à grands coups de leur battoir sonore. Ensuite, on étendait au bord de l'eau, au-dessus du lait de la prairie étroite qui longe la Loire sur 200 mètres de fil de fer accroché aux perches municipales. Ma taille d'enfant, brusquement, ressuscite du souvenir de la gifle rugueuse et glaciale que je recevais au passage du bout pendant des draps mouillés. La lessive sèche, on pliait les draps après les avoir étirés, ce qui s'opérait à deux en les serrant fortement par chaque bout et en balançant d'avant en arrière, assis au milieu du drap plié en huit, sur le rythme lent d'une petite chanson dont je me rappelle encore le début. Roulons-le, père Mathurin, roulons-le dans une brouette. Puis, comme une escadre, après avoir déployé au soleil l'orgueil de son grand pavois, rentre au carénage, la lingerie, où s'assemblaient ma mère, ma sœur, la bonne et la lingère, pendant des jours, repassaient et poussaient l'aiguille. Et les hautes piles de linge bardées de lavande revenaient bonder les étagères et les armoires, emplissant les chambres pour des semaines d'un parfum frais, neigeux et modeste. Avec la lessive, les confitures, les nettoyages de la Toussaint, le rangement du grenier, la mise en bouteille, la salaison du porc, l'année d'une maison du bourg, pleine de branle-bas rituels et périodiques, ressemblait encore à demi à l'année paysanne. Un rythme organique, toujours vaguement tributaire des saisons, s'y ragaillardissait les pénates des dieulards, y disciplinait l'écoulement des jours, enchâssait à demi l'ennui ménager du quotidien. Julien Gracq, Lettrine 2.
La ville au bord du fleuve. La ville s'étageait le long du fleuve en deux quartiers distincts. Le bas, inondé à chaque automne et au début de l'hiver, quand le fleuve grossit par la fonte des neiges, envahissait la campagne plate coupée de haies, recouvrait ses berges d'une eau noire, laissant dans les caves un dépôt épais à l'odeur fade. Les murs du seul quai de pierre. Les autres restèrent jusqu'au lendemain de la Deuxième Guerre de simples talus herbeux en pente douce. Portaient des échelles avec l'indication en rouge de la hauteur des eaux et en noir la date des crues. De belles maisons de pierres sombres, un peu délabrées, tournaient vers le couchant leurs façades rêveuses et sévères. Le fleuve était coupé de place en place par une rangée de pieux que dégageaient les basses eaux de l'été. Et où l'on retrouva, un soir de mai, le corps de l'oncle de Louise, le plus jeune frère de sa mère, mal remis des guerres qu'il avait faites dans des pays lointains, qui vivait on ne sait comment, et mourut de même. Un seul pont de pierre traversait le fleuve. Il y avait un bac en amont. Les hommes passaient aussi sur des barques à fond plat, à la godille, en actionnant verticalement une rame longue et étroite du bout. Il fallait tenir compte du courant et des remous à la hauteur de la pile centrale, céder un moment et redresser juste avant elle. Celle-ci passée, un autre courant vous rabattait vers la rive. Il y a dans l'église où Louise fut baptisée, et d'où partit au début du XVIIe siècle un convoi d'Ursuline vers le Canada, une série d'ex-voto noircis qui montre des barques retournées, des hommes projetés en l'air, raides, la tête en bas, les jambes écartées comme des doigts et les barques fracassées en longues éclisses contre l'étrave de pierre. L'hiver, quand le fleuve était à son haut, les enfants allaient voir à la sortie de l'école l'eau qui bouillonnait avec force et s'engouffrait au ras des arches par des jours étroits. Daniel Salnave, Un printemps froid.
Un été sur les bords de la Loire, à Annetz. 6 semaines de vacances, c'est notre tarif. Nous nous y sommes toujours tenus. Et nous les avons toujours passées à la maison d'Annetz, à Lémerons, qui nous évite chaque année une location. Perdus au bout d'une tortueuse vicinale, au talus hérissé de têtards d'aune, au fossé si profond qui remonte l'anguille, Lémerons, ce n'est pas une propriété. Près d'une cale désaffectée, d'un semblant de plage, ce n'est qu'un poste de pêche, inabordable l'hiver, quand les ponts et chaussées ferment les barrières de crue. Une bicoque sans valeur, en pierre rousse, entremêlée d'ardoises à bâtir. Une ancienne écurie, pour être précis, flanquée d'un four à chanvre, juchée sur une terrasse qui fut une plateforme à fumier et qui devient une île à chaque inondation. Abritée par 2 ormes géants, dont les racines maintiennent la butte, elle domine 700 mètres de basse Loire. Nous avons là 3 pièces chaulées, presque vides, un campement, dont l'inconfort nous offre au moins un des rares paysages qui ne soit pas devenu un rendez-vous de saucissonneurs. Comme beaucoup de gens qui ont toujours habité près d'une rivière, je sais mal me passer d'eau, et la plus belle lumière provençale ne m'en rembourserait pas. Mon œil a soif. Hervé Bazin, au nom du Fils.
La Loire, faussement douce. Par-dessus tout, j'aimais la Loire. Ses courants avec leur lueur lisse et froide de lame d'épée. Ses remous à la tête des épis qui avaient été vainement construits pour régulariser le fleuve. Et l'été, le sable doré de ses bancs. Il y avait en tout une paix dangereuse. Loire traîtresse, pleine de légendes, pleine de noyers, pleine de trous qui happent, Loire faussement douce, Loire lente, Loire prenante, Loire superbe avec ses îles plates et ses grands arbres droits. L'apprentissage de la Loire quand j'étais enfant, je l'ai fait avec les hangebots des fours à chaux. Ils étaient pour moi la poésie. Il y avait près de la Loire une carrière d'où on extrayait du calcaire. À proximité, 2 sortes de tours en grosses pierres où l'on faisait cuire. Tout cela lentement, bucoliquement, héréditairement. Tout autour, des vignes et des prairies, Les ouvriers, c'était des paysans. Ils étaient de la famille. Monsieur Marcel Angebot se tenait dans sa maison de la Rabotière, où il ne faisait que vivre. Sa femme était comme lui une incarnation presque sarrasine. Poésie. Seule importait la Loire, sa vie molle, terrible et ardente. Marcel, une jambe raide et comme avortée, me menait en barque auprès d'une île en un coin d'eau calme et profonde, au point d'en donner le vertige. On était contre une berge abrupte, surmontée de grands saules orgueilleux. On était dans un univers d'ondes et de verdure majestueuse, avec des pénombres pleines de secrets. Tout en pêchant, Marcel me parlait de la Loire, de ses aventuriers, surtout des passeurs légendaires qui, en poussant sur des perches, conduisaient leurs plates à travers les tourbillons. On disait qu'ils jetaient souvent à l'eau leurs voyageurs après les avoir dépouillés. Mais maintenant, les passeurs appartiennent à une autre époque et les fourrages chauds se sont éteints. C'était une industrie trop vieille, trop paysanne. Le vieux pont suspendu qui frémissait au courant, au vent, aux voitures, qui était comme un fil mal tendu qui avait un plancher en bois aux interstices énormes, a sauté pendant la dernière guerre. Lucien Baudard, mon hexagonalisation.
Saint-Nazaire, ville trop mollement située. Et pourtant, des villes réelles, une me touchera encore jusqu'à l'exaltation. Je veux parler de Saint-Nazaire. Sur une terre basse, balayée devant par la mer, minée derrière par les marais, elle n'est guère, jetée sur ce gazon ras qui fait valoir comme le poil lustré d'une bête la membrure vigoureuse des côtes bretonnes, qu'un troupeau de maisons blanches et grises, maladroitement semées comme des moutons sur la lande, mais plus denses au centre et comme agglutinées par la peur des grands coups de vent de mer. Assez tragique est l'abord de cette ville, que je me suis toujours imaginée mal ancrée au sol, prête à céder à je ne sais quelle dérive sournoise. Des boqueteaux de grues géantes aux bras horizontaux se lèvent comme des pinettes par-dessus les berges boueuses en migration perpétuelle de ce grand fleuve gris du nord, appelant comme une rédemption la blancheur des signes de légende qu'est devenue dans un mélancolique avatar final la rivière lumineuse et molle de la Touraine. Par la vitre du wagon, on songe aussi, pris dans le champ d'un périscope, au camp d'atterrissage des géants martiens à tripode de Wells. Je lui dus, par un bel été, la surprise d'une de ces poétiques collusions, de ces drôles d'idées qui naissent parfois aux choses et laissent soudain interdite la pire fantaisie. Par-dessus les toits de ces maisons basses, la ville, en moquerie profonde, je pense, de ses dérisoires attaches terrestres, avait hissé en guise de nef de sa cathédrale absente, haute de 30 mètres et visible mieux que les clochers de Chartres à 10 lieues à la ronde, la coque énorme entre ses tins du paquebot Normandie. Ville glissant de partout à la mer comme sa voguante cathédrale de tôle, ville où je me suis sentie le plus parfaitement sur le vague boulevard de brume qui domine le large entre les belles géographies sur l'asphalte d'une averse matinale et tôt séchée, dérivée comme la gabarre sans mât du poète sous son doux ciel aventureux. Mais ce Saint-Nazaire que je rêve du fond de ma chambre, existe-t-il encore ? Julien Gracq, Liberté Grande.
présentons la Loire connue pour sa douceur, son art de vivre et sa gastronomie. Cendre et brochet, anguilles, alose s'accompagnent d'une sauce de réputation mondiale, le beurre blanc. Inventé il y a plus d'un siècle à Saint-Julien-de-Concelles en amont de Nantes, le beurre blanc est un savant mélange de beurre, de micelle, de vin blanc et d'achalote. Mettons-nous tout de suite à table pour déguster un filet de cendre poêlé sauce crémant de Loire et légumes wok servis au domaine de Presles à Saumur.
Épluchez les carottes et les taillez en rondelles. Épluchez le rutabaga et le taillez en julienne. Cuire les légumes dans une poêle à wok. Pendant la cuisson des légumes, faire réduire le crémant avec la crème et le sucre de 3/4 du volume. Montez énergiquement la réduction avec le beurre à feu très doux. Cuire les pavés de cendre dans un peu d'huile d'olive, uniquement du côté peau et à couvert pendant 8 minutes. Dressez les légumes à l'aide d'un emporte-pièce. Posez le cendre dessus et décorez avec la sauce. Dégustez.
Mais peut-être avez-vous encore une petite faim ? Pour déguster la matelote d'anguilles à l'angevine, spécialité du restaurant Le Grand Bleu à Saumur.
Détailler grossièrement l'oignon, l'ail et les carottes. Les faire revenir dans une casserole avec le thym et le laurier jusqu'à légère coloration. Ajouter le vin rouge, du gros sel et du poivre en grain. Cuire pendant 30 minutes à feu doux. Puis mettre les anguilles préalablement sautées et colorées de tous côtés dans une poêle bien chaude pour suivre la cuisson pendant 15 minutes. Retirez le tout et jetez la garniture aromatique. Conservez le jus de cuisson pour confectionner la sauce. Faire mijoter le jus 10 minutes avec des petits oignons blancs et des petits champignons de Paris. Lier avec un petit roux et assaisonner de sel, de poivre, de 4 épices et un peu de sang de porc si possible. Servir avec des pommes vapeur. Bon appétit.
Pour le dessert, vous avez le choix entre les rigolettes de Nantes, les quernons d'ardoise d'Angers ou encore les fameux biscuits lus qui accompagneront les délicieuses pommes ou poires tapées du Saumurois.
Tout simplement rêver en parcourant les chemins de la Loire à vélo, immense piste cyclable de 800 km de long qui relie Cuffy dans le Cher à Saint-Brévin-les-Pins, ou embarquer pour le fantastique devant les imposantes machines de l'île de Nantes qui sont à la croisée des mondes inventés de Jules Verne et de l'univers mécanique de Léonard de Vinci.
Remercions de votre écoute. Les extraits musicaux que nous vous avons proposés sont extraits de l'album « Après la pluie » de Daniel Mille. Denise, Anne et Annie ont lu et préparé cette émission. La technique a été assurée par Yvan et Claude Michel. À bientôt sur Radio G.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.
Point 5 FM. bicycle.
I want to ride my
Le samedi 19 septembre, le collectif d'entrepreneurs Les Boîtes à Vélo Angers, en partenariat avec la ville d'Angers et la région des Pays de la Loire, vous invite à la deuxième édition du village des Boîtes à Vélo, place Lorraine à Angers. Au programme de la journée, discussions et méthodes autour de la mobilité à vélo, essais de vélos utilitaires et atypiques, découverte des entreprises qui font du vélo leur outil de travail, et à 17h, assister à l'arrivée du rallye régional Pays de la Loire, Énergie Tour 2020. Pour tout connaître sur l'entrepreneuriat à vélo, rendez-vous au village des Boîtes à Vélo, place Lorraine à Angers, samedi 19 septembre de 10h à 18h. Manifestation gratuite et ouverte à tous, restauration responsable et tropicale à découvrir sur place. Plus d'infos sur la page Facebook Les Boîtes à Vélo Angers.
Tout ce qui finit en une tapine.